Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eddie.
Les habitués de l'été ont envahi le champ de course. Les femmes portent des chapeaux en paille et les hommes fument les cigares. Eddie et Noël quittent le travail de bonne heure pour aller jouer l'âge d'Eddie, 39 ans, dans le couplet quotidien. Ils sont assis sur des pliants avec à leurs pieds des gobelets de bière posés sur un tapis de billets froissés. Un peu plus tôt, Eddie a gagné la première course de la journée. Puis, il a misé la moitié de ses gains sur la deuxième course et a gagné celle-là aussi. C'est la première fois qu'une chose pareille lui arrive et le total de ses gains se monte à 209 $ à présent. Après avoir perdu deux fois sur des paris de moindre envergure, il mise tout sur un cheval pressenti pour gagner dans la sixième course. Il était tombé d'accord là-dessus avec Noël, vu que, puisqu'il était arrivé avec presque rien, où était le mal de rentrer chez lui sans rien non plus? Logique, non? Pense un peu, si tu gagnes, tu auras tout ce pognon pour le gamin, lui dit Noël. La cloche tinte. Les chevaux sont partis. Ils se regroupent sur la ligne droite, au loin. Puis, leurs casaques de soie bariolées se font plus floues en raison de leurs mouvements cahotants. Eddie a parié sur le numéro 8, Jersey Finch, qui n'est pas un mauvais pari à 4 contre 1, mais ce que Noël vient de lui lancer sur le gamin, celui qu'Eddie et Marguerite comptent adopter, le fait rougir de honte. Pourquoi fait-il des choses pareilles alors qu'ils ont besoin de cet argent? La foule se lève. Les chevaux entament la dernière ligne droite. Jersey Finch se déporte vers l'extérieur et allonge son galop. Les encouragements se mêlent au tonnerre des sabots. Noël crie à tue-tête. Eddie serre son billet. Il est bigrement nerveux. Il a la chair de poule. Un cheval se détache du groupe. Jersey Finch. Eddie a maintenant gagné près de 800 $. « Faut que j'appelle Marguerite, dit-il. »« Tu vas tout ficher par terre. »« Qu'est-ce que tu racontes ?»« Ben, d'en parler, ça fait fuir la chance. »« Tu jojo. »« Le fais pas. »« Je vais lui téléphoner. »« Ça lui fera plaisir. »« Ça m'étonnerait. » Eddie se dirige en boitant vers une cabine et glisse une pièce. Marguerite répond. Eddie lui annonce la nouvelle. Noël a raison. Elle n'est pas contente. Elle lui dit de rentrer à la maison. Il lui dit d'arrêter de lui donner des ordres. « On attend un enfant, » gronde-t-elle. « Tu ne peux pas continuer à te comporter comme ça. » Eddie raccroche. Le sang lui monte aux oreilles. Il s'avance vers Noël, qui mange des cacahuètes, près de la clôture. « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» lui lance ce dernier. Ils se rendent au guichet et choisissent un autre cheval. Eddie sort l'argent de sa poche. Une partie de lui-même n'en a plus envie. Tandis que l'autre partie en a deux fois plus envie, afin de pouvoir balancer ses gains sur le lit quand il rentrera chez lui en disant à sa femme « Voilà, achète-toi ce que tu veux, OK ?» Noël le regarde pousser les billets par l'ouverture. Il lève les sourcils. « je sais, fait Eddie. » Ce qu'il ne sait pas pourtant, c'est que Marguerite, dans l'impossibilité de le rappeler, a décidé de filer jusqu'au champ de course en voiture pour le récupérer. Comme c'est son anniversaire, elle éprouve du remords d'avoir crié et elle veut s'excuser. Elle veut aussi qu'il arrête les frais. Suite à de précédentes virées, elle sait que Noël insistera pour qu'il reste jusqu'à la fermeture. Il est comme ça. Et puisque le champ de course n'est qu'à une dizaine de minutes de chez eux, elle attrape son sac, monte dans leur Nash Rambler d'occasion et file sur Ocean Parkway. Elle tourne à droite dans Leicester Street. Le soleil a disparu. Le ciel s'est embrasé. L'essentiel de la circulation est dans l'autre sens. Elle approche de la passerelle piétonnière de Leicester Street qui permettait auparavant aux turfistes d'atteindre le champ de course en montant les escaliers puis en les descendant de l'autre côté de la rue, jusqu'à ce que les propriétaires de l'hippodrome offrent des feux de signalisation à la ville, ce qui retira à la passerelle une bonne partie de son utilité. Cela étant, elle en avait une ce soir, puisqu'il servait de refuge à deux adolescents en cavale, poursuivis quelques heures auparavant pour avoir volé 5 cartons de cigarettes et 3 bouteilles de whisky chez un liquoriste. L'alcool et les cigarettes à présent terminés, ces deux jeunes ne savent plus quoi faire de leur soirée et balancent leurs bouteilles vides par-dessus le rebord de la rambarde rouillée. « Tu paries ?» demande l'un. « Vas-y !» répond l'autre. Le premier laisse tomber la bouteille et tous deux plongent derrière la rambarde métallique pour regarder. La bouteille manque une voiture de justesse et vole en éclats sur le trottoir. « Waouh !» hurle le second. « T'as vu ? À toi de lâcher la tienne, trouillard !» Le second se lève, brandit sa bouteille et choisit la voie de droite à la circulation moins dense. Il fait tournoyer sa bouteille et essaie de programmer la chute entre deux voitures, comme si c'était une forme d'art en soi et qu'il soit une espèce d'artiste. Ses doigts se relâchent. Il sourit presque. 15 mètres plus bas, Marguerite ne pense pas le moins du monde à regarder vers le haut, ni qu'il puisse s'y tramer quoi que ce soit. Tout ce à quoi elle pense, c'est à tirer Eddie de ce champ de course tant qu'il lui reste un peu d'argent. Alors qu'elle se demande dans quelle partie des tribunes le chercher, voilà que la bouteille de whisky fait voler son pare-brise en une pluie d'éclats de verre. Sa voiture se déporte vers le mur de séparation en béton. Son corps est ballotté comme une poupée de chiffon, lancé à toute volée contre la porte, le tableau de bord, puis le volant, qui lui perfore le foie, lui brise un bras et heurte sa tête avec une telle violence qu'elle n'entend plus les bruits nocturnes, n'entend pas les voitures freiner, ni les klaxons. Elle n'entend pas davantage les tennis à semelles de caoutchouc qui descendent en courant la passerelle de Leicester Street pour se perdre dans la nuit. L'amour, comme la pluie, se nourrit par en haut, inondant les couples d'une joie diffuse. Mais parfois, sous la chaleur coléreuse de la vie, l'amour sèche en surface et doit se nourrir par en dessous, plongeant alors dans ses racines afin de rester vivant. L'accident sur Leicester Street envoya Marguerite à l'hôpital pour près de 6 mois. Son foie abîmé finit par guérir, mais les frais occasionnés ainsi que le retard pris leur coûtèrent l'adoption, puisque l'enfant qu'ils attendaient fut dirigé vers un autre couple. Inconsciemment, la culpabilisation continua son œuvre et devint cette ombre ondulant entre les époux. Longtemps, Marguerite resta silencieuse, tandis qu'Eddie s'oubliait dans le travail. L'ombre s'installa à leur table et ils mangeaient en sa présence, dans le cliquetis solitaire des couverts s'entrechoquant contre les assiettes. Quand ils parlaient, c'était de choses sans importance. L'eau de leur amour dormait en dessous des racines. Eddie ne paria jamais plus aux courses. Ses sorties avec Noël s'espacèrent graduellement, chacun étant incapable de discuter tranquillement autour d'un petit déjeuner, si ce n'est au prix d'un grand effort. Un parc d'attractions en Californie utilisa pour la première fois des rails en acier tubulaire pouvant se courber à des angles jusque-là impossibles à réaliser. Et les montagnes russes, qui avaient sombré dans l'oubli, revinrent brutalement à la mode. Monsieur Bullock, le propriétaire de Ruby Pier, avait commandé ces mêmes rails pour sa foire et Eddie en supervisa l'installation. Il aboyait après les monteurs dont il vérifiait le moindre geste, sans aucune confiance dans un engin aussi rapide. Des angles à 60 degrés, il était sûr que quelqu'un finirait par se blesser. En attendant, ça le distrayait. Le poussière d'étoiles fut démoli, ainsi que la chenille et le tunnel des amours que les gamins jugeaient trop ringard maintenant. Quelques années plus tard, l'on construisit une nouvelle attraction aquatique baptisée Indiana Jones, et au grand étonnement d'Eddie, elle remporta un vif succès. Les passagers naviguaient de bac empli d'eau en bac empli d'eau pour tomber en bout de course dans un immense bassin avec force éclaboussure. Eddie avait du mal à comprendre pourquoi les gens aimaient tellement se mouiller là alors que l'océan était à 100 mètres. Mais il n'en effectuait pas moins l'entretien, travaillant pieds nus dans l'eau pour s'assurer que les bateaux ne se décrochent jamais des rails. Avec le temps, les époux recommencèrent à se parler, et une nuit, Eddie refit même allusion à l'adoption. Marguerite se frotta le front et lança « On est trop vieux maintenant ». Eddie répondit « C'est quoi trop vieux pour un enfant ?» Les années passèrent et ils n'en eurent pas. Leurs blessures cicatrisèrent lentement, et leur compagnonnage grandit jusqu'à remplir la place que cet enfant aurait dû prendre. Le matin, Marguerite préparait à Eddie son pain grillé et son café. Lui la conduisait ensuite à la blanchisserie où elle travaillait, puis il revenait vers Ruby Pier. L'après-midi, il arrivait parfois à Marguerite de sortir plus tôt et de l'accompagner le long de la promenade et dans sa tournée, montant sur les chevaux de bois du carrousel et dans les coquilles de palourdes jaunes, tandis qu'Eddie lui expliquait les rotors et les câbles, tout en tendant l'oreille pour surveiller le ronronnement des moteurs. Par un soir de juillet, alors qu'ils longeaient l'océan en savourant des sorbets aux raisins et que leurs pieds nus s'enfonçaient dans le sable, ils jetèrent un regard autour d'eux et se rendirent compte qu'ils étaient devenus les plus âgés de la plage. Marguerite fit une remarque sur les bikinis des jeunes filles qu'elle n'aurait jamais eu l'audace de porter. Eddie rétorqua que ces jeunes filles ignoraient leur bonheur, parce que si elle, Marguerite, en avait enfilé un, les hommes n'auraient plus Dieu que pour elle. Et même si à cette époque-là, Marguerite avait dans les 45 ans les hanches épaissies et les yeux marqués de ridules, elle remercia chaleureusement Eddy, puis regarda son nez tordu et sa large mâchoire. Les yeux de leur amour se déversèrent à nouveau d'en haut et les inondèrent aussi certainement que la mer à leurs pieds. 3 ans plus tard, voici Marguerite occupée à paner des escalopes de poulet dans la cuisine de leur appartement, conservée après la mort de la mère d'Eddy, parce que Marguerite aimait voir le carrousel de son enfance par la fenêtre. Tout à coup, sans crier gare, les doigts de sa main droite s'ouvrirent de manière incontrôlable. Ils se courbèrent vers l'arrière et refusèrent de se refermer. L'escalope lui échappa et tomba dans l'évier. Marguerite sentit dans son bras des élancements. Sa respiration s'accéléra. Un instant, elle regarda, étonnée, cette main aux doigts bloqués qui paraissait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui agrippait un gros bocal invisible. Puis, tout se mit à tourner. « Eddy !» appela-t-elle. Mais le temps qu'il arrive, elle s'était évanouie sur le plancher. On diagnostiqua une tumeur au cerveau et son déclin menaça de ressembler à tant d'autres, avec des traitements donnant l'impression d'adoucir la maladie, des cheveux tombant par plaques, des matinées passées à subir les rayons de machines bruyantes et des soirées à vomir dans les toilettes de l'hôpital. Vers la fin, quand il fut clair que le cancer avait gagné la partie, les médecins se contentèrent de lui dire « Reposez-vous, ne vous en faites pas ». Quand elle posait des questions, ils acquiesçaient avec compassion, comme si leur hochement de tête était un autre remède distribué au compte-gouttes. Elle comprit que cette façon d'être gentille alors qu'ils étaient impuissants faisait partie du protocole. Et quand l'un d'eux suggéra de mettre ses affaires en ordre, elle demanda à quitter l'hôpital. Elle le dit, plutôt qu'elle ne le demanda d'ailleurs. Eddy l'aida à monter les escaliers et accrocha son manteau, tandis qu'elle jetait un regard circulaire dans l'appartement. Elle voulait cuisiner, mais il l'obligea à s'asseoir et fit chauffer de l'eau pour le thé. La veille, il avait acheté des côtelettes d'agneau et ce soir-là, il bricola maladroitement un repas avec quelques amis et des camarades de travail, dont la plupart accueillirent une Marguerite au teint blafard, avec des phrases du genre « Eh ben, mais regardez un peu qui est de retour !» comme s'il s'agissait d'une célébration festive et non d'une fête d'adieu. Ils mangèrent de la purée dans un plat en pyrex et en dessert des brownies au caramel. Quand Marguerite eut terminé son second verre de vin, Eddy prit la bouteille et lui en servit un troisième. 2 jours plus tard, elle se réveilla en criant. Il la conduisit à l'hôpital dans ce silence qui précède toujours l'aurore. Il communiquait par phrases courtes, s'interrogeant sur le médecin qui pouvait bien être de garde et sur celui qu'Eddy devait faire appeler. Bien qu'elle fût sur le siège du passager, Eddy la sentait partout, dans le volant, dans l'accélérateur, dans un clignement d'œil, dans le raclement de sa gorge. Chacun de ses mouvements à lui revenait à s'accrocher à elle. Elle avait 47 ans. « Tu as la carte ? » interrogea-t-elle. « La carte, » fit-il, déconcerté. Elle inspira profondément et ferma les yeux. Quand elle reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un filet, comme si respirer lui coûtait tous ses efforts. « La carte de mutuelle, » répondit-elle d'une voix rauque. « Oui, oui, » acquiesça-t-il vivement, « bien sûr que j'ai la carte. » Ils se garèrent sur le parking et Eddy coupa le contact. C'était trop tranquille, trop calme tout à coup. Il entendait le moindre bruit, le grincement de son corps sur le siège en cuir, le cliquetis de la poignée, l'air se précipitant à l'intérieur, puis ses pieds sur le trottoir et le tintement des clés. Il ouvrit sa portière et l'aida à sortir. Son cou était enfoncé dans ses épaules. On aurait dit une enfant frigorifiée. Le vent lui soufflait en plein visage. Elle renifla et leva son regard vers le ciel. Elle se dirigea vers Eddy et lui signala au loin le sommet d'une grosse attraction blanche avec des nacelles rouges qui se balançaient comme des décorations à un arbre de Noël. « On peut le voir d'ici, » dit-elle. « Quoi donc ?» Elle détourna le regard. « Notre petit nid. » Parce qu'il n'avait pas dormi au ciel, Il sembla à Eddie qu'il n'avait passé que quelques heures en compagnie de chacune des personnes rencontrées. Et puis, en l'absence de nuit comme de jour, de sommeil comme de réveil, de coucher de soleil ou de marée, en l'absence de repas ou d'horaire, comment savoir? Avec Marguerite, il n'avait qu'une envie, avoir du temps, de plus en plus de temps. Et ce lui fut accordé, des nuits, des jours, et encore des nuits. Ils franchirent les portes de différentes noces et parlèrent de tout ce qui leur passait par la tête. Dans une cérémonie suédoise, Eddie lui parla de son frère, Joe, mort d'une crise cardiaque 10 ans plus tôt, un mois à peine après l'achat d'un nouvel appartement en Floride. Lors d'une cérémonie russe, elle lui demanda s'il avait gardé l'ancien appartement. Il lui répondit que oui, et elle en fut ravie. Au cours d'une cérémonie en plein air dans un village libanais, elle lui parla de ce qui lui était arrivé ici au ciel, et elle semblait tout à la fois l'écouter et déjà savoir. Il lui parla de l'homme bleu, de son histoire, pourquoi certains meurent et d'autres vivent, puis du capitaine et de sa leçon sur le sacrifice. Quand il évoqua son père, Marguerite se rappela les nombreuses nuits qu'il avait passées fou furieux après cet homme dont le silence le déconcertait tant. Eddie lui raconta que maintenant, il avait mis les choses au clair avec lui. Les sourcils de Marguerite se relevèrent alors, ses lèvres se desserrèrent, et Eddie éprouva ce même sentiment chaleureux qui lui avait manqué des années durant, un sentiment suscité par le simple fait de rendre sa femme heureuse. Une nuit, Eddie parla des changements sur Ruby Pier, comment les anciens manèges avaient été démontés et la musique à 3 sous dans la galerie de jeu était devenue un rock'n'roll étourdissant, comment les montagnes russes faisaient à présent des spirales avec des voitures suspendues aux rails, et comment les attractions dans l'obscurité, qui jadis se résumaient à des silhouettes de cow-boys se découpant en peintures fluorescentes dans le noir, étaient maintenant truffées d'écrans vidéo, comme une télé allumée en permanence. Il lui donna les nouveaux noms, Adieu Chenille ou Chaise Volante, et Bienvenue Stream, Samouraï, Top Gun ou Vortex. Ça fait drôle, non? Lui demanda Eddie. C'est comme les vacances de quelqu'un d'autre, lui répondit-elle songeuse. Eddie se rendit compte que c'était exactement l'effet que ça lui faisait depuis toutes ces années. J'aurais dû chercher du travail ailleurs. Je regrette de nous avoir jamais sortis de là. Mon père, ma jambe, je me suis senti un vrai minable après la guerre. Il vit de la tristesse sur son visage. Qu'est-il arrivé pendant la guerre? S'inquiéta-t-elle. Il ne lui avait jamais raconté les détails, passé sous silence. De son temps, les soldats faisaient ce qu'ils avaient à faire et n'en parlaient plus une fois rentrés. Il pensa aux hommes qu'il avait tués, aux gardes, au sang sur ses mains. Avait-il jamais été pardonné? Je me suis perdu. J'ai perdu mon âme, dit-il. Mais non, mais si, murmura-t-il. Et elle se tut. Parfois, là, au ciel, ils s'étendaient côte à côte, mais ils ne dormaient pas. Sur terre, disait Marguerite, quand on s'endormait, on rêvait parfois au ciel, et ses rêves contribuaient à mieux l'imaginer. De toute évidence, il n'y avait plus aucune raison maintenant d'avoir ce genre de rêve. À la place, Eddie lui tenait l'épaule et bourriffait ses cheveux, dont il humait longuement le parfum. À un moment donné, il demanda à sa femme si Dieu savait qu'il était là. Elle sourit et répondit « Bien sûr ». Après quoi, Eddie reconnut qu'il avait occupé une moitié de sa vie à se cacher de Dieu et l'autre moitié à se convaincre qu'il en était bien passé inaperçu.